Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il est l'homme qui a semé la zizanie à droite et qui provoque un séisme politique. Le candidat du Rassemblement National en région PACA, Thierry Mariani, sera avec nous dans quelques secondes. Il a choisi Europe 1 pour réagir après la réunion qui s'est tenue ce matin au siège des Républicains. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Pourquoi attendre et ne pas ouvrir dès aujourd'hui la vaccination à tous les Français? On en parlera. 19h15, la carte blanche de l'entrepreneur Philippe Magnier. Et à 19h20, le Club des idées. Grand débat ce soir sur le cannabis. Pourquoi la plupart des pays européens ont fait le choix de la dépénalisation et pas la France? Sommes-nous en retard? Peut-être aussi trop dogmatique? On en parlera avec nos invités, notamment le député agriculteur Jean-Baptiste Moreau. Voilà pour le programme. D'abord, le journal Toute l'info avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
La première fois qu'on sort sans masque. En extérieur, ça se justifie qu'on soit un peu libre de respirer tranquillement, de se voir, de se sourire.
Se voir et se sourire. Le département des Alpes-Maritimes avait été l'un des premiers à voir certaines zones confinées les week-ends de février. Eh bien, il est le premier à assouplir la législation sur le port du masque.
Depuis aujourd'hui, les habitants ne sont plus obligés de se couvrir le visage quand ils vont à la plage ou dans les parcs publics.
En Allemagne, les personnes vaccinées ou immunisées pourront-elles de nouveau aller dîner chez des amis ou bien chez le coiffeur et elles n'auront plus à respecter le couvre-feu.
Les Républicains en pleine cacophonie autour du cas Muselier. Finalement, il n'y aura pas d'accord avec La République En Marche pour les régionales en PACA, dit l'intéressé.
Nordal-Lelandais, jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, donne sa version des faits. Il raconte la nuit du crime et maintient que les coups ont été portés de manière non intentionnelle.
Paris face à son destin. Mbappé incertain, il débutera la rencontre sur le banc. Le PSG peut-il s'en sortir sans lui face à Manchester City? C'est toute la question.
Et puis, quand la pandémie s'invite dans nos dictionnaires, Cluster, Click and Collect et Télétravail font leur entrée dans le Petit Larousse. La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,89% à 6251 points.
La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Encore quelques pluies demain. Éparses.
Oui, dans la matinée, nous aurons effectivement sur la moitié sud encore de la pluie. Dans l'après-midi, ça se calme, mais le ciel reste nuageux sur tout le pays. C'est le retour des giboulées aussi demain pour le Grand Est. Et les températures en baisse. Demain sera la journée la plus froide de la semaine. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était ce matin sur Europe 1, le ministre de la Santé, Olivier Véran, interrogé sur l'obligation de porter le masque en extérieur. Jusqu'à quand? Lui a demandé Sonia Mabrouk. J'espère, a répondu le ministre de la Santé, qu'on pourra le retirer cet été. Eux, en tout cas, n'ont pas à attendre jusqu'à cet été. Depuis aujourd'hui, les habitants des Alpes-Maritimes ont l'autorisation de se promener les pieds dans l'eau et le visage à l'air libre.
Oui, sur les plages, mais aussi dans les parcs et les jardins publics notamment. Une décision motivée par le taux d'incidence dans ce département, 157 pour 100 000 habitants.
Frédéric Michel, pouvoir se promener le nez au vent, c'est tout sauf anecdotique hein, pour ces habitants que vous avez rencontrés.
Effectivement, et sans hésitation, hein, posés sur leurs serviettes, les pieds dans le sable, Sandra et Gwenaëlle ont tombé le masque.
On peut respirer, profiter de la mer sans être coincé et enfermé. Et voilà, on s'éloigne des personnes, on reste entre nous, mais on peut quand même enfin souffler.
Je n'étais pas du tout pour le fait de porter un masque quand on va à la plage ou qu'on va dans la forêt. Enfin, je ne voyais pas du tout l'intérêt. C'est vraiment mieux d'être libre.
Plusieurs fois par semaine, Annie vient marcher sur les plages entre Mandelieu et Cannes.
Et c'est la première fois qu'on sort sans masque. J'en ai un, au cas où je dérangerais quelqu'un qui ne serait pas d'accord. En extérieur, ça se justifie qu'on soit un peu libre de respirer tranquillement, de se voir, de ce sourire.
Thierry habite le Canet et avoue lui n'avoir jamais porté le masque dans la nature.
À part dans les magasins pour respecter, évidemment. Sur la plage, en plein air, j'ai toujours trouvé ça complètement idiot. Je ne comprends pas cette politique de la terreur et de la peur.
Et ce matin sur Europe 1, le ministre de la Santé, Olivier Véran, disait même sincèrement espérer qu'il n'y aurait plus besoin de porter le masque à l'extérieur cet été. Réaction au bord de la Grande Bleue.
Eh ben c'est une bonne nouvelle, on y croit.
Il est peut-être un peu trop optimiste, hein, je pense. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas trop de monde, donc ça va. Après, bon, bah, si on est les uns sur les autres, il faudra quand même essayer d'être vigilant, quoi.
Et on devra sans doute encore attendre des mois et des mois avant de voir totalement ce masque disparaître de nos visages.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice et dans un pays où on n'a jamais été obligé de porter le masque en extérieur. L'Allemagne, comme un avant-goût de liberté également, puisque là aussi il y a un allègement des restrictions sanitaires, mais seulement Hélène Kohl, seulement pour les personnes vaccinées et celles immunisées. Hélène, vous êtes notre correspondante à Berlin.
Oui, et ces Allemands-là vont pouvoir reprendre une vie un peu plus normale. Ils ne seront plus soumis au couvre-feu ni à la règle de limitation des contacts. Ils vont pouvoir aller chez le coiffeur, dans les magasins, sans avoir besoin de se faire tester avant. Ils montreront simplement leur carnet de vaccination. Il faut avoir eu les deux doses et laissé passer 2 semaines après cette deuxième vaccination. Ou bien ils montrent des certificats médicaux attestant qu'ils ont bien été malades du Covid. En revanche, tous ces gens-là devront continuer à porter le masque. Alors, vous l'avez dit, pas à l'extérieur, mais dans tous les magasins, dans tous les transports, c'est obligatoire ici. Cette mesure va rentrer en vigueur très rapidement puisque dès ce week-end, eh bien, ce sera des allègements pour tous ces gens-là. C'était vraiment une priorité du gouvernement car la campagne vaccinale s'est accélérée de façon fulgurante il y a quelques jours. 29% de la population a maintenant reçu au moins une dose, c'est 5 points de plus que la France. Et d'ici la fin du mois de juillet, a priori, tous ceux qui le souhaitent en Allemagne pourront avoir été vaccinés. Et ce coup d'accélérateur, il a été rendu possible parce que l'Allemagne a changé sa stratégie. Elle ne mise plus seulement sur les grands vaccinodromes depuis un mois, les médecins généralistes peuvent vacciner également et ça a vraiment changé la donne. Rien que pour la journée de mercredi la semaine dernière, ils ont administré 730 000 doses de vaccins.
Merci beaucoup. Hélène Kohl en direct de Berlin.
L'Agence européenne du médicament annonce, elle, qu'elle va commencer à examiner l'un des deux vaccins chinois, celui du laboratoire Sinovac.
Et ce qui ouvre la voie à une éventuelle demande d'autorisation prochaine dans l'Union européenne. De leur côté, les États-Unis vont autoriser le vaccin Pfizer pour les enfants à partir de 12 ans.
C'est le feuilleton politique de la semaine, peut-être aussi un avant-goût de ce qui nous attend dans les 12 prochains mois avec la présidentielle. Une journée pour remettre les pendules à l'heure chez les Républicains.
Échange houleux entre la ligne dure du parti qui réclamait la présentation d'une liste contre Renaud Muselier en PACA après sa décision de s'allier avec La République En Marche et ceux plus modérés qui tentaient de tempérer. Et bien finalement, après une journée manifestement très compliquée, Hélène Terzian, Renaud Muselier tente lui aussi de jouer l'apaisement.
Oui, il échappe pour l'heure au coup près de l'exclusion. Il tente maintenant d'éloigner au maximum le spectre d'une autre liste concurrente estampillée LR. Voilà pourquoi dans son communiqué, le président sortant de la région PACA donne des gages à sa famille politique. Il n'y aura pas d'accord à quelque niveau que ce soit avec En Marche. C'est ce qu'il sous-entendait déjà ce matin devant le siège du parti LR.
Écoutez, on s'est parlé, on s'est exprimé. On a fait valoir les arguments des uns et des autres et les difficultés dans lesquelles la famille politique LR aujourd'hui est là. C'était très libre et très ouvert. Depuis le départ, je dis qu'il n'y aurait pas d'accord d'appareil,
Il n'en reste pas moins que pour constituer sa liste, Renaud Muselier compte évaluer au cas par cas chaque candidature. Dans une demi-heure, la Commission nationale d'investiture promet en tout cas d'être houleuse car c'est la confusion qui règne chez LR. Bruno Retailleau est l'un de ceux qui refusent toute alliance avec la majorité présidentielle.
Qu'on ait des parlementaires qui sortent de la liste, des ministres qui sortent de la liste, c'est tromper les Français. On est toujours dans la combinaison, dans la magouille. Voilà, le seul fait qu'il n'y ait pas de liste En Marche en PACA montre bien que la liste Renaud Muselier, Emmanuel Macron, ce sera la même chose. D'ailleurs, qui l'a annoncé cet accord? C'est le Premier ministre lui-même.
Sauf qu'il n'y a pas que la majorité présidentielle qui souffle sur les braises. Dans un courrier adressé aux parlementaires LR, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle, dénonce une mascarade. C'est aussi, dit-il, une formidable opportunité pour tous ceux qui aspirent à servir notre pays. Cet ex-LR se voit déjà en rassembleur de la droite pour 2022.
Merci beaucoup Hélène Terzian, en direct du siège des Républicains à Paris. La politique toujours est Claude Chirac, candidate au départemental en Corrèze. La fille de l'ancien président se présente sur le canton de Brive-2 où sa mère a été élue suppléante en 2015. Marine Le Pen et Gilbert Collard, relaxés par la justice, ils étaient poursuivis pour la diffusion d'images d'exactions de Daesh en 2015 sur Twitter.
Le deuxième jour du procès de Nordal Lelandais, jugé depuis hier pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.
Jean-Luc Boujon, vous êtes en direct. Cet après-midi, Lelandais a livré sa version des faits.
Oui, et il a répété qu'il n'avait jamais eu l'intention de donner la mort à Arthur Noyer. Il a même donné des détails en essayant de paraître réellement bouleversé, ménageant des silences et des hésitations, parfois de manière un peu maladroite, dans son récit. Nordal Lelandais a donc expliqué qu'après avoir pris en stop Arthur Noyer, celui-ci, très éméché, est soudain pris de panique en découvrant qu'il a perdu son téléphone. Lelandais finit par le retrouver, le lui tend, mais là, Arthur Noyer lui dit « c'est toi qui l'as volé ». Le jeune militaire lui donne alors un coup de poing, puis deux. « J'ai répliqué », explique Lelandais, « on s'est battu ». Et à un moment, il est tombé en arrière, KO. Là, j'ai senti qu'il n'y avait plus de mouvement de sa part. Je ne savais plus quoi faire. Silence dans la salle d'audience. Puis tout à coup, Lelandais s'adresse d'une voix larmoyante au portrait de sa victime, placé juste devant lui par les parents d'Arthur Noyer. Désolé Arthur, je sais que t'es face à moi. Désolé pour ta famille, je sais qu'ils sont très peinés aujourd'hui. Mais je vous dis la vérité, des propos qui n'ont pas convaincu l'avocat des époux noyés, maître Bernard Boulou.
C'est du cinéma pour nous. Hein. Je dis, quand on s'adresse à quelqu'un, on regarde Arthur dans les yeux et on regarde la famille dans les yeux. Ça n'a pas été fait. La version, quant à elle, elle est toujours la même. Hein. Il a tellement bien préparé pendant 4 ans cette version et qu'il est tellement convaincu par cette version qu'il n'en sortira jamais. Malheureusement, il va faire souffrir la famille jusqu'au bout. On a parlé de monstre hier. Je crois qu'il y a toujours un monstre dans le Lelandais qu'on est en train de voir aujourd'hui.
Dans le Lelandais, dont l'image a par ailleurs été sérieusement écornée hein, par le témoignage de ses ex-compagnes, Jean-Luc.
Oui, plusieurs d'entre elles ont décrit un homme qui pouvait être parfois violent, impulsif, inquiétant. Ainsi, Vanessa raconte comment, après une dispute, il l'a soulevée, jetée sur le lit et fait mine de lui asséner un coup de tête. Comme ça, en 2 secondes, il s'est transformé, explique-t-elle. Une autre, Céline, fait le récit du harcèlement moral que Lelandais lui a fait subir juste après leur rupture. Il me suivait, il rôdait près de chez moi ou me fonçait dessus en voiture. Et elle conclut, il pouvait devenir terrible quand on ne faisait pas ce qu'il voulait.
Merci beaucoup Jean-Luc Bougeon, en direct des Assises de Chambéry pour Europe 1. Le lourd bilan à Mexico après l'effondrement d'un pont du métro aérien au passage d'une rame de métro. Au moins 23 personnes ont trouvé la mort, 70 autres ont été blessées.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous 18h10 dans un instant, la suite du journal. Et cette question, question centrale, Mbappé est-il indispensable au PSG? L'attaquant est toujours incertain pour la demi-finale. Retour de ce soir face à Manchester City, on en parle après la pub.
Et puis cluster, nasopharyngé, écouvillon, coronapiste, la pandémie s'invite jusque dans le Petit Larousse.
A tout de suite. Oui, la suite du journal. Victoire obligatoire, effectivement, ce soir pour le PSG sur le terrain de Manchester City avec impérativement 2 buts d'écart, demi-finale retour de la Ligue des Champions.
C'est pas gagné, mais on veut y croire. Grande soirée foot dès 20h. Et toujours, bien sûr, cet inconnu, Kylian Mbappé, sera-t-il sur le terrain? On sait qu'il souffre d'une contracture au mollet. Le suspense est insoutenable.
Oui, Cyril de la Morinerie est avec nous. Alors, il y a beaucoup de très grands joueurs au PSG. A-t-on raison de focaliser sur lui, sur Mbappé? Paris n'est rien sans son joueur, j'allais dire star, mais pas que Mbappé.
Mais il va falloir que le Paris Saint-Germain démontre que sans Mbappé, il peut gagner, parce que la mauvaise nouvelle de cette fin de journée, c'est que Kylian Mbappé ne sera pas titulaire selon plusieurs sources. Il sera bien sur la feuille de match, mais comme remplaçant. Alors c'est un vrai coup dur pour le Paris Saint-Germain, parce que le crack de Bondy a marqué quand même 37 buts cette saison, dont 8 en Ligue des Champions. Paris sans Mbappé, ce n'est pas la même chose, mais le PSG a de la ressource, estime l'ancien joueur parisien Jimmy Algerino, que je viens de joindre il y a quelques minutes.
C'est vrai que l'absence d'Mbappé sur un match aussi important est préjudiciable pour le Paris Saint-Germain. On se rappelle des matchs, surtout les matchs à l'extérieur, où Mbappé avait fait la différence à Barcelone et au Bayern. Après, le bas du Paris Saint-Germain est cette année quand même bien fourni avec Kane et Icardi. Donc c'est plutôt une opportunité pour le Paris Saint-Germain de retrouver un jeu de possession.
Alors l'option la plus crédible, hein, Jimmy Algerino en parlait, c'est Keane, qui est très performant. Il a été décisif en Ligue des Champions, il a inscrit 16 buts cette saison depuis son arrivée donc à Paris. Tout dépendra aussi du schéma de jeu choisi. En tout cas, Paris choisit la prudence ce soir, car n'oublions pas qu'il y a une fin de saison palpitante. En championnat, le titre n'est pas joué, il y a aussi une demi-finale de Coupe de France, mais Kylian Mbappé pourra quand même rentrer en jeu, on verra ça tout à l'heure.
Il n'avait pas été dingue au match aller, on peut le dire.
Alors, comme Neymar, pour la première fois depuis qu'il joue, il n'a pas tenté un seul tir en Ligue des Champions. Ça ne lui arrive jamais. Et on se disait, comme c'était un accident, on pouvait espérer qu'il puisse jouer et marquer. On verra ça tout à l'heure. Et c'est vrai que c'était un match compliqué pour Kylian Mbappé et Neymar.
Merci Cyril. On vous retrouvera en tout cas, évidemment, pour nous faire vivre ce match aux côtés de Julien Froment. Grande soirée dès 20h sur Europe 1 et jusqu'à 23h30 sous la houlette de Lionel Rousseau.
Et puis quand la crise sanitaire, Isabelle, bouscule notre vocabulaire. Tiens.
170 mots figureront dans l'édition 2022 du Petit Larousse, en grande partie inspirée par la pandémie, Angèle Châtelier.
Oui, car cette année, nous avons pris pour habitude de parler de quatorzaine, d'immunité. Certains d'entre nous ont été asymptomatiques. Nous sommes allés chercher nos courses en click and collect et nous avons même roulé à vélo sur des coronapistes. Tous ces mots sont entrés dans le Petit Larousse 2022 ou ont changé de sens avec la pandémie. Écoutez le linguiste Bernard Cerchiglini.
Par exemple, le couvre-feu, qui date du Moyen-Âge, était une précaution contre l'incendie. Depuis le 19e siècle, c'est une expression militaire. Or, nous avons vu apparaître l'emploi sanitaire de couvre-feu. Un autre exemple, la jauge. Vous avez une jauge dans le tableau de bord de votre voiture. Elle mesure le volume d'essence. Or, vous avez remarqué qu'on dit maintenant la jauge pour un théâtre, pour un musée.
Et autre mot que nous avons beaucoup prononcé cette année, coronapéro, whatsappéro, apérozoom. Mais à l'approche de la réouverture des terrasses et d'une vie sociale moins virtuelle, ils n'ont pas été retenus pour entrer dans le petit Larousse. À noter aussi que cette année, dans les mots choisis, il y a moins d'anglicisme. Par exemple, contrairement à d'autres nations qui ont utilisé des mots comme lockdown, les Français, eux, ont préféré le mot confinement.
Merci beaucoup Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30. La météo, Anissa, journée un peu moins pluvieuse demain, mais quand même quelques humidités.
Oui, oui, Julien, parce que nous avons une perturbation qui a touché la moitié nord du pays aujourd'hui. Eh bien, elle va s'évacuer demain, doucement, direction du sud. Mais avant de partir complètement, eh bien, des Pyrénées jusqu'aux Alpes, en passant par l'Occitanie et le sud du Massif central, nous aurons de la pluie demain en début de journée. Au fil des heures, la pluie s'en va, le soleil est de retour, avec sur l'ensemble de la France un temps perturbé, partagé entre nuages et éclaircies. Et puis, dans le Grand Est, alors c'est tard, hein, puisque nous serons demain le 5 mai, mais dans le Grand Est, demain, nous aurons des giboulées tout au long de l'après-midi. Sur les côtes de la Manche, toujours du vent qui souffle, tout comme sur le golfe du Lion. Les températures, demain, elles baissent, elles passent en dessous des normales de saison. Demain sera la journée la plus froide de la semaine, avec 3 à 14 degrés le matin. Dans l'après-midi, nous aurons 12 à Caen et Metz, 14 à Saint-Étienne et Paris. On perd 4 degrés quand même à Paris. Hein. 16 à Biarritz, 19 à Toulouse, 22 pour Marseille, 23 à Bastia. Et 24, la maximale pour Nice.
Merci, 24 à Nice. On salue évidemment nos amis niçois. Merci Anissa, à tout à l'heure, 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes. Celui qui a provoqué un séisme chez les Républicains est notre invité, le candidat au régional en PACA du Rassemblement National, Thierry Mariani. À tout de suite. Et ce soir, notre invité à 18h20, il est député européen, candidat aux élections régionales en PACA, affilié Rassemblement National. Bonsoir Thierry Mariani.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous en direct dans Europe Soir. D'abord, est-ce que ça vous réjouit d'être à l'origine de toute cette zizanie dans votre ancienne famille politique ? Est-ce que ça vous amuse, en somme ?
Non, ça ne m'amuse pas du tout, mais c'est malheureusement depuis deux ans, les Républicains sont dans une sorte de double jeu, avec une partie qui ouvertement joue la carte Macron de plus en plus, oui. Comme par exemple dans notre région, M. Estrosi ou M. Falco, oui. Et puis une partie de gens qui essayent encore de faire vivre ce parti avec ses convictions. Oui. C'est simplement en réalité le révélateur des contradictions qui traversent aujourd'hui les Républicains.
On a le droit, Thierry Mariani, de changer d'avis. Il y a encore peu de temps, vous-même, vous disiez Marine Le Pen exploite la désespérance, mais elle n'apporte aucune solution. Aujourd'hui, vous.
C'est exact.
Vous êtes candidat pour elle.
Si ma mémoire est bonne, il y a 7 ans. Oui. Mais reconnaissez qu'au sein du parti où j'étais pendant 42 ans, ce qui veut dire que je ne suis pas un habitué du nomadisme politique, j'ai toujours défendu une ligne, j'allais dire, de droite. D'ailleurs, je vous rappelle que j'avais créé la droite populaire avec 47 députés pour justement à ce qu'on reste sur notre programme au moment de Nicolas Sarkozy.
Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis d'ailleurs ? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis de bord politique, Thierry Mariani ?
Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis ? Une attitude qui manquait de clarté. Quand j'ai vu, j'étais encore au bureau politique, des personnes comme Darmanin, Le Maire, Édouard Philippe, passer avec Macron, l'embarras de certains, et puis une partie des Républicains qui jouent ouvertement un double jeu. Alors, mais par contre, je fais la différence avec les militants qui, eux, en général, ont des convictions et se trouvent de plus en plus déçus. Les messages que je reçois depuis quelques jours sont là pour me le confirmer.
Vous pensez, comme le disent beaucoup de proches d'Emmanuel Macron, qu'il y a aujourd'hui deux droites irréconciliables au sein des Républicains ?
Sincèrement, oui. Oui. Je pense que... Vous savez, n'oubliez pas que les Républicains sont issus de l'UMP. N'oubliez pas qu'à l'UMP, il y avait deux traditions politiques, celle issue de l'UDF, celle issue du RPR. Quand on était chiracien ou quand on était sarkozyste, ce n'était pas non plus la même chose. Eh bien, ces deux droites se retrouvent aujourd'hui. René Raymond réexpliquait aujourd'hui que la droite bonapartiste restait fidèle à ses convictions et que la droite orléaniste sera liée progressivement à Macron.
Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de quelqu'un, et je vous pose la question avec beaucoup de sincérité, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de quelqu'un comme Éric Ciotti sur le plan des idées ?
Plus grand-chose. C'est pour ça que, franchement, quand je regarde les positions d'Éric Ciotti, quand je regarde Guillaume Pelletier, quand je regarde Nadine Morano, eh bien, je me dis, qu'est-ce qui nous sépare, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui nous sépare? Oui. Une sorte de vieux discours qui a été calé à une époque sous Mitterrand-Chirac, qui consiste à dire, ces gens-là sont infréquentables. Mmh. Aujourd'hui, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a plus rien à voir avec ce que c'était ce parti il y a 20 ans. Et c'est une nouvelle génération, c'est des gens qui... pour certains viennent notamment des Républicains ou de l'UMP quand je vois de nombreux cadres.
Oui.
Mais en tout cas, il n'y a plus grand-chose qui nous sépare parce qu'on est attaché au même problème.
Mmh. Alors les Républicains et Renaud Muselier ont clarifié cet après-midi et aujourd'hui les choses. Une réunion s'est tenue au siège des Républicains. Il s'agira d'une liste républicaine, a précisé Renaud Muselier, qui est candidat contre vous en région PACA, qui est actuellement président de la région. Il ne s'agira pas d'une liste d'union, mais bien d'une liste de droite. Peut-être un mot de réaction sur ce point, Thierry Mariani ?
Écoutez, une liste républicaine, ça ne veut rien dire. La liste que je conduis est une liste républicaine.
Oui.
On respecte
une
autant les règles de la République.
Les Républicains, en somme.
Oui, attendez, j'ai lu et relu le communiqué de deux pages de Renaud Muselier. Franchement, je crois qu'il mérite le Nobel de l'enfumage. Parce
pourquoi
que si vous
pourquoi
avez réussi à...
Parce
que finalement, vous savez, au plus un communiqué politique est long, avec des phrases, j'allais dire, rondes, ronflantes, ça veut dire en général qu'on essaye de gagner du temps ou qu'on essaye de noyer le problème.
Ouais, en même réalité, temps, il y a quelque chose d'assez logique, Thierry Mariani, tout de même, c'est dans la logique des choses. Emmanuel Macron a un gouvernement résolument à droite. Ça n'est pas incongru non plus de passer des alliances au cas par cas. Ça a toujours existé en politique. C'est une
mais
alliance.
Dans ce cas-là, qu'ils assument. Il est évident aujourd'hui que Renaud Muselier a passé une alliance avec En Marche. Mais en clair, c'est comment passer une alliance sans trop que ça se voit. Alors le problème, c'est que dimanche, chacun de nous a vu que cette alliance était annoncée par le Premier ministre.
Oui.
On sait même, grâce à certains de vos confrères, que des noms ont été donnés par l'Élysée pour qu'ils figurent sur cette liste. Aujourd'hui, Renaud Muselier et surtout les Républicains se trouvent dans un dilemme. C'est
mais
comment,
ça n'est pas une alliance, Thierry Mariani. C'est donc le candidat Les Républicains qui se maintient alors que le candidat La République En Marche, en l'occurrence la candidate, s'efface. Mais ça n'est pas une liste d'union. C'est ça la subtilité.
Attendez, ça c'est une subtilité, pardonnez-moi, que vous êtes l'un des rares à comprendre. Hein. Pour les électeurs, c'est simple. C'est désormais, il y aura sur la même liste des gens d'En Marche et des gens des Républicains. Et c'est pas nouveau, puisque si vous me le permettez, je vous rappelle que dans sa majorité, aujourd'hui, Renaud Muselier a déjà 10 conseillers régionaux, dont 2 vice-présidentes, qui soutiennent Emmanuel Macron.
Bien.
D'ailleurs, il a annoncé sa candidature à côté de l'une d'elles, qui est un soutien évident et affiché de M. Macron.
Thierry Mariani, sur les régionales précisément, vous êtes aujourd'hui à peu de choses près à 30% d'intention de vote, là où en 2015, Marion Maréchal-Le Pen obtenait plus de 35% au premier tour. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes moins populaire que Marion Maréchal-Le Pen ? Ou c'est le RN qui séduit moins en région PACA ?
Écoutez, j'attends de voir les résultats. Vous savez, l'expérience politique me montre que ce n'est pas le chiffre brut qui compte, c'est d'arriver en tête au deuxième tour.
Oui.
Alors peut-être qu'on a un peu moins de voix que dans certains sondages que Marion Maréchal-Le Pen. Mmh. Mais attendez de voir comment le scénario va finir.
Vous êtes confiant, donc, visiblement. Quelques mots sur votre programme, Thierry Mariani. Vous établissez 5 priorités, dont rétablir la sécurité et éradiquer l'islamisme. Alors, outre le fait, pardonnez-moi, que c'est un peu un lieu commun, comment allez-vous procéder, puisque les régions n'ont absolument pas la compétence sécuritaire, et comment une collectivité comme la région peut lutter concrètement contre l'islamisme ?
Comment nous pouvons lutter pour la sécurité ? D'abord, nos compétences. Je vous rappelle que nous avons la compétence dans les transports. Et quand je regarde, par exemple, ce qui se fait en Île-de-France, nous devrions aujourd'hui avoir 500 personnes affectées à la sécurité dans les transports.
Mais vous n'avez pas la compétence de la police ?
Non, mais nous avons la compétence de la sécurité dans les transports. Et je vous signale que de très nombreuses régions ont fait des efforts importants. À population équivalente, nous devrions, je reprends ma comparaison avec l'Île-de-France, en avoir 500 en sécurité dans les transports. Nous avons à l'heure actuelle que 100 agents. Ce que nous voulons déjà, c'est que les transports, les TER dans notre région deviennent plus sûrs. Mmh. Deuxièmement, je vous rappelle que nous avons aussi la compétence dans les lycées.
Oui.
Et là aussi, nous souhaitons que ce qui a été fait par la majorité sortante, à savoir des embauches de personnel qui ressemblent plus à des grands frères qu'à des agents de sécurité, eh bien, prendre de véritables agents de sécurité. Oui. Et puis, je prends un exemple d'une mesure que nous proposerons,
oui.
C'est de créer un véritable bouclier sécurité. Chaque fois qu'une commune mettra 1 € en matière de sécurité pour sa commune, que ce soit de la visio-surveillance, que ce soit de l'équipement pour les policiers municipaux, nous abonderons d'1 € aussi.
Bien. Très bonne réponse. On attend de voir si vous serez élu, puisque tout ça dépend évidemment de votre élection éventuelle. Peut-être un dernier mot brièvement sur votre proximité revendiquée avec le despote syrien Bachar el-Assad, que vous qualifiez régulièrement d'ami. Est-ce que vous trouvez toujours que c'est un chic type qui fait un boulot formidable ?
Je n'ai jamais dit que c'était un chic type qui faisait un boulot formidable. Vous savez, en politique étrangère, j'ai deux boussoles.
Vous avez été le voir 25 fois quand même, ou c'est ça?
Ah non, pas 25 fois, il ne faut pas, exagérer, pardon. 25 fois, non. Non, je suis allé le voir, je suis mémoire est bonne, 6 fois. Ce qui est déjà pas mal, vous le reconnaîtrez.
Oui.
Non, mes convictions, elles sont simples, c'est quel est l'intérêt de la France? L'intérêt de la France, je le répète, dans cette région, c'est surtout de ne pas avoir un régime qui s'effondre au profit des islamistes. Mmh. Et deuxièmement, j'ai toujours été attaché à la protection des chrétiens d'Orient. Sincèrement, si les amis soutenus par M. Fabius avaient gagné aujourd'hui cette guerre en Syrie, nous aurions un régime islamiste terroriste en Syrie. Moi, je n'ai jamais dit que M. Bachar el-Assad était le régime idéal, mais par moment, il faut savoir lequel est le moins dangereux et lequel ne représente pas une menace pour la France.
Merci infiniment. Je suis navré, le temps qui nous était imparti est malheureusement terminé. Merci Thierry Mariani d'avoir été ce soir notre invité en direct dans Europe Soir. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, le rappel des titres dans quelques secondes. Et puis le débat des grandes voix avec nos débatteurs. On parlera notamment du débat sur la vaccination pour tous. Faut-il accélérer? À tout de suite. 18h30, le rappel des titres avec Isabelle Mille.
Victoire obligatoire ce soir pour le PSG avec au moins 2 buts d'écart face à Manchester City pour espérer se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Mbappé débutera la rencontre sur le banc. Match que vous pourrez suivre en intégralité sur Europe 1 dès 20h. Le cas Renaud-Muselier au cœur d'âpres discussions toute la journée chez les Républicains et ça continue en ce moment. L'intéressé joue l'apaisement, affirme qu'il n'y aura pas d'accord en PACA avec La République En Marche. Au deuxième jour de son procès, Nordal Lelandais, jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, raconte sa version de la nuit du drame, une dispute pour une histoire de téléphone qui aurait mal tourné, une bagarre ayant entraîné la mort du jeune homme. La France est prête à recourir à des mesures de rétorsion à l'égard de l'île anglo-normande de Jersey. Si les autorités britanniques continuent à restreindre l'accès des pêcheurs français à ces eaux, c'est ce que dit ce soir la ministre de la Mer.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure évidemment à 19h pour le journal. Un coup d'œil à la météo avec Anissa, une journée fraîche, voire même un peu froide demain.
Oui, demain sera la journée la plus fraîche de la semaine. Couvrez-vous, les températures repassent en dessous des normales de saison, surtout le matin avec le retour de petites gelées dans le centre-ouest. Et puis au meilleur de la journée, il va faire frais sur la moitié nord avec seulement 11 degrés à Dunkerque. Je vous rappelle que demain nous serons le 5 mai. 11 à Dunkerque, 12 à Colmar et Cherbourg, 13 à Lille et Strasbourg, seulement 14 degrés pour Paris et Quimper, 17 à Bordeaux. Dans le sud il fait doux, 19 à Toulouse, 22 pour Marseille, 23 à Montpellier et 24 pour Nice.
Merci Anissa, à tout à l'heure, 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le débat des grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés, Étienne Girard, rédacteur en chef Société L'Express. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Julien.
Charles Villeneuve, bonsoir Charles.
Bonsoir.
Et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Bonsoir,
bonsoir
Guylaine.
Bonsoir.
Alors on revient ensemble sur le psychodrame d'abord qui agite en ce moment la droite. On en parlait avec notre invité Thierry Mariani il y a quelques instants. Et la mise au point aujourd'hui donc de l'état-major des Républicains et la déclaration de Renaud Muselier qui ne sera finalement pas exclu du parti. Et ce dernier a bien précisé que sa liste en région PACA sera bien une liste de droite et pas d'union avec LREM. Réaction de Christian Jacob, le président des Républicains.
On n'est pas du tout dans un sujet d'exclusion. Il y a dans cette région un très bon bilan de la majorité régionale, qui est la majorité régionale, les Républicains. Il y a aujourd'hui une manœuvre d'En Marche, parce qu'encore une fois, ils font le constat d'échec de ne pas pouvoir conduire une liste, et donc ils sont dans les petites manœuvres. Bah, il faut savoir les éviter et rebondir sur nos bases.
Ça rétropédale assez sérieusement, Guylaine Ottenheimer, par rapport à la tonalité d'hier soir.
Ah ben, le tacle assez habile, je dois dire, d'Emmanuel Macron qui consistait à imposer une alliance dans cette région PACA en la faisant annoncer par Castex, qui précisait cela préfigure une recomposition politique plus large. Vraiment, ça faisait mal aux Républicains parce qu'on voyait, on la voit, la fissure entre, entre les deux droites.
Mais elle a toujours existé.
Elle a toujours existé.
Elle a toujours existé.
Vous savez, on disait du gaullisme, il y a deux faces. C'est comme le Janus, il y a la face plébéienne et puis il y a la face mondialiste. Quoi. Voilà. Il y a toujours eu ça entre un Pasqua, qui était la face plébéienne, et puis les grands argentiers qui étaient beaucoup plus mondialistes. Donc ça, ça a toujours existé. Mais il faut un leader pour tenir les deux bouts. Oui. C'est ça qui manque un peu aujourd'hui. Et non, mais là, le tacle d'Emmanuel Macron était parfait. Et là, ça s'enlise un peu. Alors maintenant, l'histoire n'est pas finie parce que la fin de l'histoire, c'est est-ce que ça ne met pas en selle Mariani, tout ça ?
Oui. Étienne Girard, il y a une question quand même qui se pose, c'est l'exclusion visiblement de la tête de liste LREM, Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes âgées, qui était candidate, qui se retire, oui. Et dont on pensait qu'elle serait sur la liste de Renaud Muselier. Ça n'est pas le cas.
Pour l'instant, c'est le dindon absolu de la farce.
Mais est-ce
Sophie
que c'était
Cluzel.
Dans le deal qu'elle soit sur cette liste avec Renaud Muselier ?
Non, mais si on est au sûr d'une chose, c'est que dans le deal, de départ, il était évident que Sophie Cluzel devait figurer sur la liste de Renaud Muselier.
Donc l'idée, c'était bien qu'il y ait une liste d'union.
Ah mais absolument.
Et non pas un candidat qui s'en va au profit d'un autre candidat.
Non mais ce qui se passe depuis 48 heures est un rétropédalage. Vous l'avez dit par rapport à ce qui a été annoncé en grande pompe par le Premier ministre dans le JDD et qui était très clair. Alliance en bonne et due forme entre Muselier et LREM en PACA. D'ailleurs, la recomposition n'était pas un tel tremblement de terre quand on mesure que Renaud Muselier gouverne dans sa région avec le MoDem qui fait partie de la majorité.
Oui, et puis encore une fois, Charles Villeneuve, on l'a dit hier à ce micro, quand on voit qu'il y a quasiment plus de la moitié des ministres aujourd'hui du gouvernement d'Emmanuel Macron qui sont issus de la droite républicaine. Alors, Jean Castex a déclaré ce matin devant les députés LREM, ouvrez les guillemets, j'ai été sollicité par Renaud Muselier, j'ai répondu à cet appel pour faire face au risque RN, il y a un écho national et LR est face à ses responsabilités. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, au-delà du coup politique d'Emmanuel Macron, la volonté de réenchanter le Front républicain ?
D'abord, c'est un rétropédalage de Muselier. Je voudrais bien savoir si le rétropédalage est absorbé aussi par Christian Estrosi, par les deux vraiment, si vous voulez, propulseurs de cette affaire, c'est-à-dire Christian Estrosi et Hubert Falco, qui tous les deux, pour lancer l'opération définitive, ont déjeuné le 15 avril avec le chef de l'État pendant près de 2h30, 3h. Bon, alors, exclure Muselier, c'était finalement, parce qu'ils ont une équation insoluble, les Républicains. S'ils montent une liste, ils vont faire un score relativement minable et favoriser de toute façon la liste Rassemblement National Thierry Mariani. Parce qu'il ne faut pas oublier que Thierry Mariani, il ne fait pas tellement peur sur la Côte d'Azur, dans les 6 départements. Il ne faut pas oublier que c'est un bébé Chirac, qu'il a été député maire de Valréas 3 fois de suite.
Mais je rappelais tout à l'heure, lors de notre interview, qu'au même moment, en 2015, Marion Maréchal Le Pen, qui était candidate du Rassemblement National, était à 35%, là où il est à 30%.
Oui.
Donc elle était plus forte que lui au même moment.
Oui, mais attendez. La campagne, elle commence seulement, de toute façon. Mais je ne sais pas ce qu'il va faire, de toute façon. Moi, je pense qu'il a 2 chances sur 3 de gagner dans le souk, finalement. Et c'est un vrai souk, comme celui de Tunis. Vraiment formidable. Mais il n'empêche que le président de la République tente une fusion-absorption des Républicains. Oui. Et qu'il a quand même une relative bonne chance de la gagner aussi.
Mais c'est un coup politique gagnant, Guylaine Ottenhammer, pour le président, au bout du bout ?
C'est très audacieux, mais ça fait partie de sa stratégie qui fait que petit à petit, les LR sont pris en étau entre le Rassemblement National et Macron. Et petit à petit, ils sont compressés, tassés, diminués, amputés. La question est de savoir, est-ce que cette famille politique a un avenir ? Ça va se jouer à la présidentielle.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est une course de vitesse. En fait, Emmanuel Macron aimerait bien détruire cette droite encore un peu plus. Il lui a fait déjà beaucoup de mal en prenant parmi ses meilleurs représentants, parce que le maire, etc. Enfin, pratiquement toutes les têtes, les figures de gondole. Et donc, c'est une course de vitesse. Est-ce qu'on va la déstabiliser encore un peu plus, cette famille, avant la présidentielle, pour bénéficier des droits de droite? Mais ça veut dire aussi une chose qui est très dangereuse pour Emmanuel Macron, c'est sa sincérité. C'est-à-dire que là, il est en train de pencher très à droite. On a vu qu'il ne ferait pas d'alliance à gauche, parce que tous les présidents de région de gauche ont dit non, nous, on ne fait pas d'alliance de premier tour. Donc ça le marque très à droite. Oui. Ça peut aussi beaucoup dépiter un certain nombre d'électeurs qui avaient voté pour lui, qui venaient de la gauche, qui avaient voté pour lui la dernière fois, mais qui ne revoteront pas cette fois-ci. Ça dépendra de l'offre qui est à gauche. Mais tout ça, ça veut dire que rien n'est écrit pour la prochaine présidentielle. Oui. Tout ça est très mouvant. Emmanuel Macron fait de la course en vitesse. C'est vraiment une stratégie très rapide. Et les autres, on voit bien, là, les Républicains, ils étaient en retard. Ils n'avaient pas anticipé. Et ils nagent, quoi.
Allez,
là.
Mais ils savaient tous ce qui se passait.
Mais bien sûr, ils savaient tous ce qui se passait. Mais
il y a quand même un fait qui est intriguant, qui s'ajoute à la démonstration de Guylaine Ottenheimer, c'est que le Premier ministre, le 1er mai, a dit que ça rentrait dans le cadre d'une recomposition présidentielle.
Oui.
Ça veut dire qu'ils ont calculé ce risque de toute façon.
Bien, 18h40, on se retrouve dans quelques secondes et on parlera notamment de la vaccination pour tous. A tout de suite. 18h40 de la suite du débat des grandes voix du mardi avec toujours Charles Villeneuve, Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express, et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Alors, on va changer de sujet et parler du débat qui monte. Alors que les livraisons de doses de vaccins s'accélèrent, 13 millions de doses supplémentaires attendues ce mois-ci, beaucoup d'élus plaident maintenant pour ouvrir la vaccination à tous les adultes qu'ils souhaitent avant la date prévue, c'est-à-dire le 15 juin. Réaction ce matin sur notre antenne d'Olivier Véran.
Je peux vous confirmer que si nous avions 50 millions de vaccins qui arrivaient aujourd'hui dans les frigos, dans 10 jours, nous n'aurions plus de vaccins et les Français seraient tous protégés. Mais rendez-vous compte, encore une fois, de l'extraordinaire exploit scientifique, industriel. L'Europe est le continent qui produit le plus et exporte le plus de vaccins au monde.
Certes, mais s'il y a suffisamment de doses pour cet afflux de personnes nouvelles, vous n'allez quand même pas retarder le calendrier si vous avez encore une fois ces doses.
Nous ne retardons absolument pas le calendrier.
Bien. On en parle, Étienne Girard, mais la question se pose quand même. Il y a des doses qui sont perdues, il y a des doses qui sont en attente, on utilise la 7e dose. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même d'être simple, clair, limpide et d'ouvrir la vaccination à tous les Français qui le souhaitent?
La question importante, c'est est-ce qu'il y a autant de doses qu'on le pense qui sont perdues? Effectivement, si on a 20% de doses tous les soirs qui sont perdues, oui, la question ne se poserait pas. Je ne suis pas en mesure d'avoir un calcul indépendant de cela. Le gouvernement estime qu'on est à moins de 2% de doses perdues et donc que finalement, ce n'est pas vraiment un sujet. Cela dit, à partir du moment où il y a des doses perdues, oui, il est légitime de poser la question d'ouvrir davantage que ce qu'on fait actuellement. On pourrait, j'entends cette proposition-là,
oui.
Ça me paraît intéressant, ouvrir par exemple des plages horaires. C'est-à-dire faire en sorte que, oui, dans la majorité de la journée, les plus de 55 ans ont la priorité pour se faire vacciner. Et à une plage horaire,
les Anglais ne se sont pas posé la question. Ils ont ouvert la vaccination avec AstraZeneca à tous les citoyens. Alors, on a une autorité de santé européenne, le gendarme européen du médicament, qui a plutôt envoyé le signal qu'il fallait le réserver aux plus de 50 ans, 55 ans maintenant aujourd'hui avec les autorités sanitaires françaises. Mais ça marche très bien en Angleterre. Pourquoi on n'arrive pas à le faire en France, Guylaine ?
Moi, j'avais été frappée, là, il y a déjà une quinzaine de jours, quand on avait vu deux vaccinodromes qui avaient fermé leurs portes à midi parce que les gens ne venaient pas. Et moi, tout de suite, j'avais réagi, mais il faut donner le sentiment qu'il y a un élan. Si vous avez les gens qui se précipitent et qui font la queue à l'entrée d'une vaccination AstraZeneca...
Pas juste un sentiment, Guylaine. Vous avez vu sur Doctolib et sur Vitmados le nombre de rendez-vous des gens qui n'ont pas droit au vaccin.
Si les gens, au lieu de voir, si les gens à la télé, au lieu de voir un vaccinodrome vide, voient des gens qui font la queue pour se faire vacciner, je veux dire, l'impact sur les vaccinosceptiques, il n'est pas le même. Je pense que ce gouvernement...
Pardon, Guylaine, on est... Au-delà de ça.
Mais non, on n'est pas
au-delà de ça. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui veulent se vacciner, mais qui n'ont pas droit.
Je termine ma démonstration, si vous voulez bien. Il y a quand même un problème des vaccinosceptiques sur l'AstraZeneca, puisque les vaccinodromes étaient vides alors qu'on proposait des vaccins à une certaine partie de la population. Donc, il y a quand même un problème. Et on s'entête à faire... Alors maintenant, c'est très compliqué. Est-ce que j'ai plus de 55 ans? Est-ce que j'ai le droit à AstraZeneca? Est-ce que c'est 6 semaines? Est-ce que c'est 12 semaines? En fait, ça devient extrêmement compliqué. Alors qu'il faut donner un signal fort, on y va tous, etc. Il faut plus d'agilité. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement, comme vous le disiez, ouvrir des plages horaires pour ceux qui sont prioritaires et puis ensuite, ce qui reste pour les autres. faire comme ont fait les Israéliens, c'est-à-dire on est inscrit sur un site et dès qu'on voit que ben, un certain nombre de gens ne sont pas venus au rendez-vous de vaccination, ben, tous ceux qui sont inscrits sont alertés par SMS et ils viennent.
Oui.
Mais je veux dire, c'est vrai qu'on a envie quand même que le... Ou alors laissons les maires prendre un peu des initiatives. On a l'impression quand même que c'est soviétique. Voilà. Mmh. Ça alors, manque d'agilité, ça manque de réactivité.
C'est le cas bon, du maire
mais cela
de
dit,
Mandelieu,
je voudrais juste terminer quand même sur une chose.
Guylaine.
Pour revenir sur les doses perdues, c'est qu'on est dans la moyenne, dans la bonne moyenne du nombre de gens vaccinés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un problème d'arrivée de vaccins. On est autour de 22 personnes qui ont eu une première dose. C'est comme la Suisse, c'est comme la Norvège.
23,7.
Bon, on est dans la moyenne. On n'est ni mal, ni bien.
Y a des maires qui le font. Un maire que vous connaissez bien, je crois, Charles Villeneuve, le maire de Mandelieu, dans le sud de la France, qui a décidé d'ouvrir la vaccination.
Neveu, oui.
Voilà, c'est votre neveu, je vous laisse le dire. À tous les plus de 18 ans, il a pris son risque, il a décidé de le faire. C'est possible.
Non, bah, parce que tout à l'heure, vous avez donné une information, évidemment, que nous approuvons tous. Elle existe, c'est Doctolib, et c'est une ruée. C'est une ruée. Bon, et si on n'obéit pas à cette ruée, moi je trouve que Véran l'a dit tout à l'heure, le ministre de la Santé, dans l'extrait que vous avez passé, si on avait 50 millions de vaccins, ben on ouvrirait à tout le monde. Or, on n'a pas les doses nécessaires. Il y a les vaccinodromes, il y a l'adhésion de la population, mais il n'y a pas les doses suffisantes pour ouvrir à tout le monde. Alors, évidemment, mon neveu s'est débrouillé. Je ne sais pas, grâce au préfet, j'en sais rien, à cause de qui, Cannes aussi a ouvert à tout le monde, etc. Et il y a une ruée, et pour l'instant, ils arrivent à écouler leur dose par rapport à cette ruée, c'est vrai. Et puis, de toute façon, tous les soirs, puisque ils avancent étape par étape d'âge, tous les soirs, ce qu'il y a, je dirais, en rab de doses, eh bien, ils l'administrent. À ceux qui sont
alors,
là, quel que soit leur âge.
Sur un certain nombre de sites internet, aujourd'hui, on peut se mettre sur la liste d'attente. D'ailleurs,
c'est très bien.
Explose et on est contacté si jamais
c'est le modèle israélien.
Exactement. Ne sont pas venus. 18h48, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite avec les grandes voix. 18h51, toujours les grandes voix du mardi. Charles Villeneuve, Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express, et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Alors, on continue de parler des vaccins. Vous voyez, Charles Villeneuve, pendant la pause, là, je regardais, l'AstraZeneca est également, depuis peu, autorisé pour tous les publics en Allemagne, et notamment à Berlin, accessible à tous. Et les Berlinois se ruent dessus. Ça fonctionne très bien. L'AstraZeneca ouvert à tous. Ça veut dire que il y a des autorités européennes qui ont donné des prérogatives, les Allemands ont pris leur risque.
Mais il y a un côté meute germanique. Il y a un côté meute germanique que vous n'avez pas dans le caractère français, sans doute.
On est trop précautionneux, en somme.
Oui, et puis surtout très critique, très méfiant.
Mais après, les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand on vaccine tout le monde, c'est que l'objectif est d'arriver le plus vite possible à une forme d'immunité collective.
Oui.
Quand on vaccine par tranche d'âge, c'est le cas en France, l'objectif assumé par le gouvernement, c'est d'éviter la saturation des hôpitaux, donc d'éviter les cas graves avec l'analyse que les gens les plus âgés ont le plus de chances de faire des cas graves.
Mmh.
Donc en ça, cette stratégie-là, elle a sa cohérence, elle a sa légitimité. Après, c'est un arbitrage entre la saturation des hôpitaux et la nécessité de sortir de la pandémie.
Que disait Guylaine Ottenheimer tout à l'heure sur l'AstraZeneca, il va quand même assez rapidement se poser un sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui que 27 000 vaccinations par jour contre plus de 75 000 il y a deux semaines. Donc on est descendu de moitié alors qu'on reçoit 2 millions de vaccins. Donc des vaccins, là, pour le coup, il y en a d'AstraZeneca.
C'est ce que je vous disais. Si on voit les gens faire la queue pour se vacciner même avec l'AstraZeneca,
ça
donne un autre message.
Ça n'arrive pas.
Parce que qu'est-ce qui est passé sur toutes les télévisions? C'est des vaccinodromes vides en disant les gens ne veulent pas de l'AstraZeneca.
Oui.
Alors les gens se disent, putain, moi, je ne vais pas prendre le risque.
Oui.
Bon. Et puis depuis le début... Alors tout ça, il faut quand même mettre sous condition parce que comme disait Charles Villeneuve, on est très bon pour critiquer. Et comme je le disais tout à l'heure, finalement, par rapport aux doses au nombre de doses qui sont disponibles, on est dans la moyenne. Mais simplement, il y a aussi le ressenti des gens.
Mmh.
Et le ressenti des gens, c'est que quand même, il y a eu beaucoup de... le gouvernement, les autorités étaient très timorées dès le départ. Dès le départ, on voit bien, par exemple, comme Boris Johnson, tout de suite, il joue le Pfizer. Et puis nous, on fait acheter par l'Allemagne au plus petit prix. Ben, les autres, ils ont payé peut-être 15 ou 17 euros. Et nous, on a payé 10, formidable, mais on n'a pas eu les doses tout de suite. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a deux objectifs. Il y a le premier objectif, ne pas saturer les hôpitaux pour pas que notre système de santé explose. Et deuxième objectif, c'est surtout qu'on reprenne une vie normale.
Oui. Alors justement, la vie normale, Olivier Véran, on a peut-être dressé une petite lueur à l'horizon de l'été. C'est un peu la bonne nouvelle du jour. On verra si ça se confirme. La fin du masque obligatoire à l'extérieur. Cet été, a-t-il dit. C'est une bonne nouvelle qui vous enchante, Charles Villeneuve?
Mais tout à fait, absolument. D'ailleurs, j'attends pas en général, dès que j'arrive chez moi, j'enlève mon masque.
Oui.
Pour une fois que je pourrais
marcher dans
ne
la
pas
rue.
Le porter dehors l'été. Ben vivement l'été, c'est quand l'été
C'est dans quelques semaines. Les Alpes-Maritimes ont déjà décidé de ne plus rendre obligatoire le masque sur la plage, dans les jardins publics, dans les parcs. Bonne nouvelle, la fin du masque obligatoire?
Oui, c'est d'autant plus une bonne nouvelle que quand on écoute les médecins, ils disent qu'il y a eu très peu de cas de cluster en extérieur, que donc le masque en extérieur, finalement, a plus un intérêt d'éducation au respect des gestes barrières que vraiment quelque chose de très important pour juguler la pandémie. Donc cet été, si les gens, si des groupes de 6 à 7 personnes peuvent se retrouver plutôt en extérieur, plutôt qu'à l'intérieur, ou s'ils ne sont pas encore vaccinés, ils ont des risques, oui, encore une fois, encore à ce moment-là, d'être contaminés, bah oui, c'est une excellente nouvelle, c'est très bien.
La prochaine étape, ce sera évidemment 19 mai, réouverture des terrasses, des musées, des cinémas, avec des jauges et des stades sportifs, avec les matchs de foot.
Excellente nouvelle. Mais excellente nouvelle. Là où je suis un peu plus inquiet, c'est pour le 19 juin. On va ouvrir les salles intérieures des restaurants à ce moment-là. Et dans un restaurant, on porte moins le masque, évidemment, et on respecte un peu moins les distances aussi.
Il y aura des jauges. Il ne faudra pas qu'il y ait plus de temps de
Il faut les vérifier,
Enfin, pour le moment, quand vous voyez ce qui se passe dans les écoles et ce qui se passe dans les appartements, bon, finalement, le risque, proportionnellement, les quelques restaurants qui vont ouvrir avec des jauges très, très faibles, c'est pas ça le risque. Et pour le masque qu'on enlève, moi, je vais vous dire, je circule à vélo. Et c'est formidable parce qu'à vélo, on n'est pas obligé de mettre le masque. Et moi, je ne peux plus monter dans un taxi ou dans le métro. Le vélo, parce qu'il n'y a pas de masque.
Vous êtes venu à vélo aujourd'hui?
Oui.
Ah, très bien, très bien. Merci Guylaine, merci Charles, merci Étienne, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mardi.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, on marque une pause dans quelques secondes. Le journal avec Isabelle Millet, évidemment, et le débat du Club des idées. Pourquoi le président Macron se dit hostile toujours à la dépénalisation du cannabis? Beaucoup de pays européens l'ont fait. Pourquoi pas nous? La question fait débat. On sera avec un député qui porte le sujet à l'Assemblée nationale. À tout de suite.